témoignage écossais,
le rendez-vous des idées,
toutes les idées,
rien que les idées,
une émission proposée par le Suprême Conseil pour la France.
Les Lumières sont sur plusieurs fronts. Il y a une volonté de transformation.
Il y a un mouvement extrêmement fort intérieur qui désire un renouveau.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 24e épisode de Témoignages écossais. Nous allons échanger aujourd'hui avec deux invités dont l'un a déjà participé à notre émission il y a exactement 2 ans. Le thème qui va nous intéresser est lié à un mouvement à la fois philosophique, littéraire et politique, appelé communément les Lumières, dont les historiens fixent l'âge d'or au XVIIIe siècle, et dont les prémices coïncideraient avec la fin du long règne de Louis XIV qui s'est achevé, comme chacun le sait, en 1715. Ce mouvement est aujourd'hui perçu comme une libération de l'être humain, prisonnier, jusqu'à là d'un obscurantisme à la fois politique et religieux. Nous allons constater avec nos invités que les choses ne sont pas si simples et que, selon les mots mêmes d'un de nos invités, ces lumières n'ont pas été totalement lumineuses. Pour débattre à la fois des origines de ce mouvement et de ses conséquences dans le bouleversement de la société occidentale, dont le paroxysme a coïncidé avec la Révolution française et l'Empire, nous recevons 2 personnalités dont les récents travaux apportent, et c'est un très mauvais jeu de mots, un éclairage à la fois philosophique et historique, et pourquoi pas maçonnique, sur cet élan de libération de la raison. Il est temps de passer aux présentations et je vais commencer par Bertrand Vergely, philosophe, théologien et habitué de nos rencontres écossaises. Bertrand Vergely, bonjour.
Bonjour.
Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur, entre autres, d'un ouvrage intitulé « Obscure lumière » publié en 2018 aux éditions du Cerf. Et je crois que cet oxymore n'est pas qu'une figure de style empruntée à Corneille. Je crois qu'il parlait, lui, d'obscure clarté.
Venant des étoiles.
Venant des étoiles, c'est le Cid.
Absolument. Oui, tout à fait, je reviendrai là-dessus sur cet oxymore.
Très bien. Je me tourne maintenant vers notre deuxième invité qui, malheureusement, n'a pas pu être présent physiquement dans nos studios pour des causes de grève, de problématiques qu'on connaît bien en ce moment. Mais il est là par Zoom. La technologie nous permet de l'accueillir. Pierre-Yves Beaurepaire, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Nice, membre de l'Institut universitaire de France et spécialiste reconnu de ce siècle des Lumières. Parmi les nombreux ouvrages que vous avez publiés, j'ai envie de citer « La France des Lumières », paru en 2011 chez Belin et récemment en poche chez Gallimard, Folio Histoire. Et je crois savoir que votre analyse met en avant ce qu'on pourrait appeler une inversion normative qui assiste à la désacralisation de l'autorité monarchique, parallèlement à la montée de courants de pensée qui n'ont rien d'homogène, contrairement à certaines idées reçues.
Oui, tout à fait. Les historiens s'intéressent à la différence des philosophes, ont peut-être les pieds sur terre et la tête dans les archives et essayent de montrer comment l'opinion finalement se cristallise, se forme au XVIIIe siècle et notamment dans la forme d'une contestation par rapport à l'autorité monarchique. Tout à fait.
Merci. Et enfin, je présente celui qu'on ne présente plus, Claude Guichard. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Je rappelle à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, il doit bien en avoir 3 ou 4, que tu es membre actif du Suprême Conseil, chargé de mission pour la communication et ancien grand secrétaire général. Tu es devenu un habitué de nos échanges. En quoi ce thème que nous avons choisi, selon toi, peut-il se rattacher à nos préoccupations maçonniques et spirituelles? Tu as le droit à la première question.
Merci. Je dirais que la plus évidente est certainement historique, mais ce n'est pas la seule. Si les Lumières ne constituent pas l'alpha et l'oméga des origines symboliques, elles représentent un événement majeur. L'esprit du siècle qui prônait la fraternité universelle, une vision égalitariste et libérale de la société, comme une forme de tolérance religieuse, a donné lieu à un développement certain et a laissé une empreinte forte qui fait encore aujourd'hui débat, des débats souvent extrêmement passionnés, entre avènement d'une pensée libérée ou au contraire un éloignement d'une pratique initiatique authentique, sans parler des tenants du déisme et des tenants du théisme. En bref, cela pose les questions essentielles de la liberté et de la transcendance. À ce propos, dans ton introduction, Stéphane, tu parles de liberté. Et je me pose la question de savoir si nous n'assistons pas davantage, en cette période, à un besoin de libération qui fut détourné en un espace de liberté politique, donc davantage en une apparence qu'en une réalité.
Mais je pense que de toute façon, ce thème sera également débattu. Alors, je vous propose de commencer notre échange en prenant quelques minutes pour situer le thème de notre échange, d'abord à la fois dans le temps et dans l'espace. Quelles sont ces lumières et surtout, d'où vient réellement ce profond mouvement tellurique? Peut-on réellement le situer précisément dans le temps? Qui veut commencer? Est-ce que c'est l'historien ou est-ce que c'est le philosophe? On donne la parole à l'historien peut-être sur cet aspect-là et puis Bertrand réagira.
C'est une question qui est intéressante parce que précisément les lumières, elles nous invitent à dépasser les frontières du Royaume de France pour ce qui nous concerne, pour embrasser une perspective européenne. Et souvent, quand on dit, tu as parlé tout à l'heure de mon livre, 1715-1789, mais si on est dans une perspective européenne, on serait plutôt sur la fin des années 1680, aussi bien avec la perspective du rayonnement de Newton et de ses disciples, qu'aussi la glorieuse révolution d'Angleterre. Donc c'est vraiment une géométrie, une géographie et une chronologie variable. Les lumières sont éminemment plurielles.
Bertrand, à ce stade, vous avez une réflexion sur cette origine.
Je pense que l'origine des lumières vient de bien avant. L'origine des lumières commence à l'intérieur du protestantisme et derrière le protestantisme, de ce qui se profile derrière le protestantisme, c'est-à-dire un désir profond d'un renouveau religieux qui viendrait de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et on voit qu'à un moment, dans le développement de l'Église en Occident, il y a le développement d'une scolastique où tout d'un coup un pouvoir politique et religieux veut établir un système à la fois intellectuel et politique qui répond à tout. Et puis de l'autre côté, il y a un mouvement extrêmement fort intérieur qui désire s'affranchir de cet autoritarisme à la fois intellectuel, politique et moral et qui désire un renouveau. Et on voit une chose, c'est quoi les Lumières? Les Lumières, c'est un mouvement très profond de renouveau qui désire faire table rase de ce qui a été à un moment l'Église dogmatique, politique, pour retrouver une véritable intensité spirituelle. Il s'avère que les Lumières n'ont pas été au bout de ce renouveau spirituel et qu'elles sont devenues à un moment purement politique. Mais je crois qu'on ne comprend rien aux Lumières si on ne voit pas qu'au départ, aussi curieux que ça puisse paraître, l'origine des Lumières est totalement mystique et est à la recherche de l'homme mystique qui a été refoulé par toute une tradition spirituelle et religieuse en Occident.
Alors que pense l'historien de cette vision que vient de nous évoquer Bertrand?
Bien que, comme souvent, les philosophes et les historiens ne vivent pas sur la même planète.
Un petit peu de détail ou
C'est-à-dire que nous, on a été formés quand même à l'histoire du père Plongeon qui parlait d'une auferon chrétienne. Donc déjà, si on commence... Et puis, les protestantismes sont multiples, y compris au XVIIIe siècle, et on ne peut pas... Il faut vraiment distinguer toute la mouvance luthérienne, à commencer par l'ère germanique, ce qui se passerait plutôt du côté de Calvin, et la difficulté, au-delà de la plaisanterie, la difficulté des Lumières, c'est que le terme même nous parle, mais ça dépend dans quelle perspective on le situe, parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire, dans ce cas-là, effectivement, jusqu'au Japon, hein, l'ère de Meiji au 19e siècle se réfère aux Lumières, mais on est dans un contexte tout à fait différent. El Narda au Levant, c'est une renaissance qui se veut aussi faire ses propres Lumières. Voilà, c'est toute la question de savoir... à quel moment on les débute ou pas, mais en réalité, ce qui compte, les Lumières, en tout cas pour ce qui est des Lumières européennes d'un grand 18e siècle, elles passent leur temps à revisiter l'héritage ancien. Voilà, à partir de là, on peut effectivement
dialoguer. Pierre-Yves, est-ce que pour vous réconcilier, on pourrait dire qu'en fait, le 15e siècle et, je dirais, le développement de l'imprimerie et donc derrière ça, la possibilité au plus grand nombre d'avoir accès au savoir, alors qu'auparavant il n'avait accès qu'à des commentaires ou qu'à des dogmes, est-ce qu'on pourrait situer les origines, en fait, à cet accès qui s'est fait lentement dans le temps, bien sûr, mais tout d'un coup, cette capacité à réfléchir par soi-même et non plus par ce qu'on recevait, vous l'avez dit Bertrand, d'un clergé, par exemple?
Oui, mais je pense que, bien évidemment, si on voit Luther traduit la Bible en allemand, et bien évidemment, il y a une volonté de pouvoir interpréter les textes à partir d'une vision morale et intérieure et pas simplement à partir d'un magistère. Mais je pense qu'il faut aller dans les fondements spirituels et mystiques qu'il y a derrière tout ça. Et ce que l'on aperçoit, c'est que les choses ont commencé bien avant. Pour que Descartes dise qu'il y a une volonté de faire table rase et à un moment de partir complètement à nouveau pour aborder les domaines du savoir et de la philosophie et de la métaphysique, il a fallu qu'il y ait tout un travail préparatoire. Et s'il n'y avait pas eu à l'intérieur de l'Église et des mystiques un profond changement, un certain nombre de choses n'auraient pas été possibles. Ensuite, nous avons le développement glorieux des Lumières telles que nous le connaissons, c'est-à-dire un affranchissement clair, net et précis à l'égard de l'institution politique. Mais personnellement, moi, c'est ma vision des choses. Je crois qu'on n'imagine pas l'importance des transformations mystiques qu'il y a à l'intérieur du XVe et du XVIe siècle.
Merci Bertrand. Alors, une des illustrations du développement des Lumières les oppose, comme vous l'avez dit, ou comme on pourrait le penser, à l'obscurantisme, qui serait l'apanage des religions en général et du catholicisme en particulier. Peut-on réellement tout ramener à cette opposition, ou est-ce qu'il s'agit là d'une version entre guillemets simpliste qui occulte tout un pan d'autres combats menés face à l'absolutisme politique, la justice sociale, les lettres de cachet et le blocage en fait d'une société prisonnière de ces trois ordres, Pierre-Yves Beaurepaire?
Ces questions-là, Stéphane, sont vraiment intéressantes parce que, en réalité, les Lumières sont sur plusieurs fronts qui sont articulés les uns aux autres, et en même temps, il ne faut pas imaginer les Lumières contre l'État ou contre la monarchie. Hein. Elles sont présentes au cœur même de l'État, elles le nourrissent, elles le transforment, elles le modernisent. Il y a des modernisations dans tous les domaines jusqu'à la veille de 1789. Faut pas imaginer qu'on ait une sorte de compte à rebours inéluctable qui aurait débuté. Donc il y a des transformations en permanence, et en même temps, tu évoques la question de la société d'ordre. La plupart des hommes des Lumières inscrivent totalement leur n'est pas du tout dans une volonté de rupture ou de tableau rase de l'organisation sociale et politique. Il y a une volonté de transformation, la plupart du temps de manière tout à fait modérée, et on trouve sa place dans cette société d'ordre ou en relation avec l'appareil d'État. On évoquait tout à l'heure la lutte contre l'obscurantisme. Alors souvent, on instrumentalise Voltaire, par exemple, dans cette perspective-là. Il devient historiographe de Louis XV, c'est-à-dire que on n'est pas du tout dans une logique d'affrontement systématique. Et par exemple, lorsque on va retirer le privilège d'imprimerie, tu évoquais l'imprimerie tout à l'heure, à l'encyclopédie, le directeur de ce qu'on appelle la librairie à l'époque, qui est la censure, Malesherbes, est le premier à faire savoir à Diderot qu'on va retirer le privilège et faire en sorte que finalement, les gens qui ont souscrit à l'encyclopédie puissent bien obtenir les volumes pour lesquels ils ont souscrit. Donc on n'est pas du tout dans une opposition frontale, dans un dialogue très riche. Et on peut effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, absolument pas caricaturer les oppositions.
Alors Bertrand, vous avez parlé, vous avez évoqué le mysticisme à l'instant.
Ou plutôt la mystique.
Ou la mystique, oui. Pardon, la mystique. En quoi la mystique que vous évoquez serait-elle différente de mystiques peut-être plus anciennes qui existeraient ou qui ont existé dans les siècles précédents? En quoi celle que vous évoquez est-elle réellement partie prenante de ce mouvement?
Ben, écoutez, si on lit Alexandre Coiré qui écrit « Du monde clos à l'univers infini », nous avons un exemple même d'éclairage, à savoir la manière dont la mystique va à un moment informer complètement le changement scientifique qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à la fin du XVIe siècle et au début du Xe siècle? Si on lit les auteurs de l'époque, si on lit Descartes, si on lit Pascal, si on essaye de comprendre ce qui se passe, on a avant l'heure une intervention de la relativité à l'intérieur de notre monde. C'est-à-dire que Descartes, comme Pascal, se disent quand même très curieux, le petit qui est grand à l'égard du petit est petit à l'égard d'un plus grand. Et la question est de savoir comment interpréter cette vision des choses par rapport à une vision aristotélicienne au départ, où tout, tout était marqué par un ordre avec des qualités. Et tout d'un coup, on a affaire à une nouvelle vision du monde qui, finalement, part de la théologie pour dire « Mais écoutez, c'est absolument passionnant ce que vous dites, parce que ça nous permet de faire rentrer l'infini à l'intérieur de la science et permettre de préserver ce qu'on pourrait appeler une intuition mystique. » C'est-à-dire le fait de vivre dans un monde relatif n'est pas quelque chose qui va relativiser complètement l'expérience spirituelle, mais qui va lui permettre de donner un nouveau souffle en disant « Voilà, si les choses sont relatives, c'est dire si elles sont saisissantes et s'il dit qu'elles rendent compte à leur manière de la transcendance. » Donc moi je vois à un moment l'expérience de la mystique à travers un renouveau tout à fait extraordinaire. Et on n'a pas l'habitude, si vous voulez, de parler des Lumières sous l'angle mystique. On n'en parle que du point de vue politique. Et on ne voit pas qu'à un moment il y a un formidable travail qui va se faire à partir du XVIe siècle, qui a été très bien analysé par Coiré puis par d'autres, et qui va déboucher sur le romantisme, et qui permet d'avoir une totale nouvelle vision de la nature qui intègre finalement les notions de la modernité, liées en particulier au relativisme.
Merci Bertrand. Claude, je crois que tu voulais intervenir.
Pierre-Yves Beaurepaire, dans votre ouvrage L'Europe des Lumières, vous insistez sur cette notion que vous avez évoquée tout à l'heure des Lumières plurielles. Alors moi, j'ai trouvé ça relativement, enfin même très intéressant, puisque en fait, d'abord, ces Lumières sont plurielles au niveau de leur nature, et ça, c'est intéressant. Elles sont surtout plurielles au niveau de la dimension géographique. Donc, je trouve intéressant de sortir d'un climat ou d'une vision franco-française lorsqu'on aborde ce problème, parce que on se rend compte quand même qu'il y a des visions très différentes et des approches des Lumières extrêmement différentes. Et avec la République des Lettres, on a quand même une circulation des idées, on a une circulation, je dirais, de ces mouvements qui me semble être une circulation intéressante, au sens que ça forme une bouffée d'oxygène qui quand même, quelque part, à un moment donné, fait du bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, tout à fait, Claude, vous avez tout à fait raison. Et vous avez évoqué le terme de circulation, de bouffée d'air, de respiration. Je pense que c'est fondamental pour comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre à ce moment-là. D'abord parce que les réseaux d'échange ont complètement, se sont complètement transformés au cours de la période, parce que sinon, on prend n'importe quelle période et on communique de la même façon. Et bien évidemment, on ne voyage pas du tout de la même façon au XVIIIe siècle comme on voyageait au XVe ou au XVIe siècle. Il faut penser aussi que le temps normal des sociétés de l'époque moderne, hein, c'est-à-dire entre le XVIe et le XVIIIe siècle, c'est la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe est en guerre 2 années sur 3, voire 3 années sur 4. Donc bien évidemment, il faut prendre en compte cette toile de fond, parce que sinon, on fait effectivement des lumières hors sol. Et ensuite, il faut intégrer ces circulations que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire que la République des Lettres, pour la prendre au sens premier du terme, c'est une République qui correspond, qui échange en permanence, y compris avec certains de ses citoyens, hein, qui normalement n'auraient pas vocation à communiquer les uns avec les autres. Je vous prends juste un exemple. Moi, je me suis beaucoup intéressé à un pasteur huguenot qui vit au refuge, c'est-à-dire après l'expulsion des huguenots de France. Il est parti très jeune, il est parti à l'âge de 9 ans. Il vit sur la Baltique, à Stettin, donc dans les églises françaises du royaume de Prusse, sous Frédéric II, pour voir là aussi les respirations et déplacements de population. Cette diaspora huguenote, elle joue un rôle essentiel dans l'imprimerie que Stéphane évoquait tout à l'heure. Eh bien, il est amené à écrire au cardinal Querini, qui est le conservateur de la Vatican à Rome, qui imagine même à un moment donné éventuellement devenir pape. Et s'il n'avait pas eu la République des Lettres en partage, cette correspondance entre ces deux hommes ne serait jamais arrivée. Et il finit par dire « Qu'est-ce que vont penser mes paroissiens si pasteur calviniste du refuge, je correspond assidûment avec un prince de l'Église catholique romaine et qu'en plus, je lui explique que j'ai dû partir à l'âge de 9 ans suite aux persécutions subies par les calvinistes en France, par les réformés en France. » Eh bien, ce genre de situation, c'est vraiment caractéristique de ce qui est possible de faire désormais au XVIIIe siècle. Puisqu'on évoquait la Révolution en ouverture, on a exactement le même phénomène à la fin du XVIIIe siècle, lorsque celui qu'on appelle le pape des sciences britanniques, Sir Joseph Banks, écrit à l'émissaire français sous la Révolution à Londres, en lui disant on devrait revenir au principe, on est dans la phase de guerre très violente entre la France et l'Angleterre, on devrait revenir au principe de la République des Lettres, et lui dit on devrait en faire un axiome, comme quoi, même en temps de guerre, les sciences ne se font pas la guerre. Et ça fait partie des dynamiques qui sont à l'œuvre au XVIIIe siècle, mais qu'on ne peut comprendre que si on les met en relation, on pourrait parler de Benjamin Franklin de la même façon, etc., que si, en réalité, les États sont en guerre la plupart du temps. Et donc, ça fait sens pour eux d'essayer de dépasser ces tensions et ces conflits.
Oui, Bertrand, je voulais réagir à vos propos. Vous avez cité tout à l'heure Pascal et Descartes. Et je m'aperçois qu'en fait, à cette époque-là, ils arrivaient à concilier à la fois des recherches scientifiques, notamment pour Pascal, tout en maintenant une foi active, sans remise en cause, je dirais, d'un système existant. En revanche, ensuite, avec cette explosion due aux Lumières, on assiste à une séparation entre peut-être le dieu de Voltaire, le grand géomètre d'un côté, le débat foi-raison, déisme-théisme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, il y ait cette séparation qui arrive ?
Ce qui s'est passé, c'est une rupture qui est liée à l'empirisme et que l'on trouve à la fois chez Hume et en même temps chez Lamétrie. Si vous lisez Lamétrie dans L'animal-machine, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit... Les philosophes s'intéressent à l'infini, mais l'infini, c'est abstrait, c'est pas humain, on n'est pas chez nous. Et donc, nous, on a envie de comprendre les choses à partir de ce que nous vivons. Et quelque part, vous trouvez exactement la même chose chez Hume, à la fois dans l'introduction aux essais sur l'entendement humain ou bien encore dans le traité de la nature humaine. Tout d'un coup, il y a le fait de dire « on voudrait que vous nous parliez de la vie que nous vivons et nous, on ne vit pas en Dieu, dans l'éternité, dans l'infini. Tout ça est extrêmement abstrait et on veut revenir aux réalités concrètes qui sont des réalités à la fois humaines, psychologiques et sociales. » Et je pense que c'est ça qui apparaît. Alors, le gros problème qu'on n'a pas vu, c'est que ça nous introduit dans la platitude. Et que tout d'un coup, à un moment, c'est dit par Hume, c'est toujours s'il dit pas, vous savez, les philosophes de la profondeur, il y en a marre. Je veux plus de la profondeur. On veut parler des choses de la vie, du bien-être, de la psychologie, de la sociologie. Et on est là-dedans. C'est-à-dire, on est dans un monde qui est métaphysiquement fatigué. Et c'est un monde qui donne l'impression du renouveau. Mais il faut bien comprendre une chose. Au XVIIIe siècle, l'Europe, la France ne veulent plus entendre parler de religion, du catholicisme et du christianisme. Il y a une espèce de ras-le-bol. Alors, on va essayer de trouver des aménagements, mais gigantesques. Ils n'en peuvent plus.
Alors, Pierre-Yves, pour vous faire réagir à ce propos, vous êtes aussi un spécialiste de l'histoire de la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie aussi, à un moment, a fait sienne, je dirais, toutes ces idées qui ont circulé. Et on a assisté aussi à une époque, plus tard, à une séparation de deux courants aussi. Un qui maintenait, la croyance en un principe, en un grand architecte, et l'autre qui s'est totalement laïcisé. Est-ce qu'on peut comparer ça à ce que vient de dire Bertrand ? Est-ce qu'on a assisté aussi, un peu plus tard sans doute, à un mouvement de ce type-là ?
Oui, je dirais plus tard, parce que le changement se fait vraiment au 19e siècle, au 18e siècle. Alors effectivement, on peut dire qu'il y a deux condamnations pontificales de la franc-maçonnerie en 1738, en 1751, mais qui s'expliquent très largement par un contexte spécifique à l'Italie, au royaume de Naples d'un côté, à l'Espagne de l'autre, surtout que le roi de Naples devient roi d'Espagne. Mais si on fait exception de cette situation-là, il y a au XVIIIe siècle des pères abbés qui sont vénérables de l'horloge, aussi bien dans les abbayes bénédictines en Lorraine, en Normandie, les confréries de pénitents qui se sont jamais aussi bien portées qu'au XVIIIe siècle sont vraiment très main dans la main avec les loges maçonniques. Et donc, je parle de pays catholiques. Là, au XVIIIe siècle, le franc-maçon considère que Il est fondamentalement un sujet fidèle de son roi, un chrétien respectueux de l'autorité, et le basculement auquel tu fais allusion est vraiment celui du 19e siècle. Il y a un avant, alors, après les révolutions.
Je fais une précision sur le RER, qui est le rite écossais rectifié et non un moyen de transport beaucoup plus récent.
Alors, je voudrais juste ajouter une chose qui va tout à fait dans votre sens. Voltaire n'est pas athée. Il est il critique le fanatisme et il critique l'athéisme. Il essaye de trouver un juste milieu entre l'athéisme et le fanatisme, et qu'il a avec le dieu horloger. Mais notre ami a tout à fait raison. Il y a, à la fin du 18e et au début du 19e, cet effet de lassitude.
Mais il y a, à propos de Voltaire, il y a une histoire incroyable, c'est que Voltaire a été initié en maçonnerie 5 semaines avant de mourir. J'ai l'impression qu'à cette période-là, on a essayé de récupérer Voltaire pour qu'on puisse dire plus tard, Voltaire était franc-maçon. Je ne sais même pas s'il était conscient, réellement, lorsqu'il a été initié dans la loge Les Neuf Sœurs. Tu connais peut-être cette histoire, Pierre-Yves ? Tu peux nous en dire un mot ?
Oui, tout à fait. C'est exactement ça, Stéphane. C'est-à-dire qu'on est dans l'année 1778. Tout le monde veut récupérer Voltaire à ce moment-là. Et il faut penser même que le tableau qu'on présente systématiquement, la leçon de la lecture de L'Orphelin de Chine, donc une pièce totalement oubliée de Voltaire au sein du salon de Madame Geoffrin, qu'on voit dans tous les manuels scolaires, etc., de 4e, de 2e, pour présenter ce que sont les Lumières, c'est une commande a posteriori, du début du 19e siècle, qui restitue en fait un salon où toutes les grandes figures, les premiers de deuxième rang des Lumières, sont présentes dans le salon, et finalement une sorte de communion laïque sous les auspices de Voltaire. C'est une reconstitution a posteriori. Pour la franc-maçonnerie, c'est exactement la même chose. On est tout à la fin de sa vie. Voltaire s'est souvent moqué, donc c'est un peu moqué de tout, mais il s'est souvent moqué des francs-maçons, très souvent, et à la fin de sa vie, lui aussi est récupéré. Et de toute façon, pensez un instant à la Révolution, quand on voit la panthéonisation simultanée de Voltaire et Rousseau, alors qu'on sait très bien qu'ils se détestent, on les représente tous les deux marchant vers le Panthéon. La récupération est allée jusqu'en 1791. Donc c'est exactement ça. Et d'ailleurs, la loge dans laquelle il est reçu, Les Neuf Sœurs, qui est l'une des loges les plus brillantes de Paris au XVIIIe siècle, n'est pas du tout représentative. C'est une loge vraiment très liée aux sciences. Le projet de loge, on évoquait tout à l'heure la maîtrise, là c'est l'autre philosophe matérialiste, Helvétius. C'est Helvétius qui était le fondateur de cette loge, qui s'appelait une loge des sciences. On a changé le nom ensuite en l'appelant Les Neuf Sœurs, en référence aux neuf muses de l'Antiquité, mais c'est clairement une opération de communication à destination autant des profanes que des francs-maçons, parce qu'on évoquait tout à l'heure la réception de Voltaire, etc. Moi, je connais de très nombreux épistoliers du XVIIIe siècle qui sont parfaitement engagés en Europe dans le domaine des Lumières et qui estiment que Voltaire est quelqu'un d'absolument insupportable, qu'il a des idées tout à fait dangereuses et que, notamment, il y a une correspondance entre l'éditeur d'une des encyclopédies rivales de celle de Diderot, qui s'appelle De Felice, c'est un Napolitain converti au protestantisme qui vit en Suisse, et il dit « le bourreau n'aurait pas dû s'arrêter donc au livre de Voltaire, au dictionnaire philosophique, s'il avait pu en gros nous débarrasser de Voltaire, ça aurait été une fort bonne chose ». Et cet homme-là, De Felice, écrit à Formé, qui est un protestant français qui vit à Berlin, une des grandes figures des Lumières européennes, ce sont d'authentiques hommes des Lumières, mais qui trouvent que les idées de Voltaire et de quelques autres Français sont parfaitement insupportables. Donc quand je parlais de la complexité des Lumières tout à l'heure avec Claude, c'est aussi ça.
Oui, Bertrand Vergely, dans votre ouvrage, vous parlez de Voltaire et de l'horloger. Alors pardon de résumer, mais vous dites en fait qu'il a donné naissance à un dieu sans religion. Et vous terminez en disant « peut-être que cela pourrait nous protéger du fanatisme, mais je n'en suis pas sûr ».
Ben oui, je pense que le problème de Voltaire a été de trouver un moyen terme entre le fanatisme et puis d'autre part l'athéisme. Et il y a tout à fait ce qu'on peut appeler le dieu horloger. Le dieu horloger, c'est quoi ? Ben finalement, c'est un dieu qui est parfaitement compatible avec la science et avec Newton, que Voltaire célèbre dans les lettres philosophiques. Et je crois qu'il y a les prémices ici de ce qu'on va voir se développer au XIXe siècle, qui est en fait la grande religion moderne, qui est le positivisme. Et en fait, on croit dans la science, on croit dans le progrès, on croit dans la sociologie, on croit dans le progrès politique, on croit dans l'amélioration par les droits de la condition humaine. Et je crois que c'est ça qui est en jeu. Et ce qui est en jeu, c'est de dire, écoutez, nous, la religion, c'est beaucoup trop compliqué pour nous, c'est trop obscur, il y a des discussions byzantines qui nous fatiguent, avec lesquelles on n'a plus aucune envie de participer, et on veut fabriquer ce qu'on peut appeler une religion terrestre. Et je crois qu'il y a quelque chose qui se met en place. Pour moi, si vous voulez, ce qui est extrêmement intéressant, c'est l'apparition du socialisme moderne et comment le socialisme, le positivisme, les positivistes vont devenir les grandes religions du monde moderne, les religions dans lesquelles nous sommes toujours. Voilà. Et je crois qu'il y a une fantastique élaboration. Et il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est ce propos de Jules Guesde, qui était un grand révolutionnaire, qui disait « L'Église catholique, c'est nous qui allons la réaliser. Nous allons être l'Église catholique. » Et je crois qu'on comprend beaucoup de choses à partir du XIXe siècle si on voit comment les choses s'organisent à partir de cela. Et là, il y a une destinée. C'est peut-être pas la destinée de Voltaire, parce que je pense que Voltaire, notre ami a raison, il s'est moqué de tout, il voulait absolument être libre et tout. Mais je pense que c'est un peu ça qui se met en place.
Alors je voulais aussi, Bertrand et Pierre-Yves, qu'on aborde aussi une partie de l'histoire liée à la Révolution française. Et Bertrand, dans nos échanges préparatoires, vous m'avez fait part d'un paradoxe qui nous emmène bien plus loin qu'une simple opposition des Lumières par rapport à un obscurantisme, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour vous, et vous me corrigerez si je suis imprécis, on peut voir dans ce foisonnement humaniste pétri de bonnes intentions au départ, la matrice des mouvements totalitaires qui sont apparus notamment en France dès 1793, ce que Hannah Arendt qualifie de déconstruction des Lumières. Comment l'expliquez-vous ?
Écoutez, je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de notre monde, c'est de savoir comment quelque chose qui se voulait pour les droits de l'homme, contre la peine de mort, tout d'un coup met en place une machine qui est une machine de terreur et dans laquelle, à un moment, il va y avoir une destruction des droits de l'homme. Il faut quand même bien voir, quoi. Vous voyez que Voltaire écrit d'un côté un libelle contre la peine de mort et puis de l'autre côté, à un moment, il met en place la guillotine. Comment est-ce qu'à un moment, les deux choses sont compatibles ? Et je crois que c'est un autre paradoxe. Rousseau, je lui jetterai pas la pierre là-dessus, écrit un traité sur l'éducation et il met ses enfants à l'assistance publique.
Exact.
Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment ? Comment se fait-il qu'à un moment, la Révolution française accouche de l'Empire alors qu'elle voulait le contraire d'un régime centralisé avec un pouvoir ? Alors, peut-être que je me ferai flageller pour mon ignorance, etc. Mais il y a eu un paradoxe énorme. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Révolution française pour qu'à un moment, on arrive au contraire du résultat souhaité ? Comment se fait-il que Napoléon ait rétabli l'esclavage ? Comment se fait-il ? Comment est-ce pensable, si vous voulez ? Alors, je crois que le problème est le suivant. C'est très bien de transformer le monde. Le risque, quand on transforme le monde, c'est que parce qu'on transforme le monde, on se donne tous les droits. Et on dit « je transforme le monde, donc j'ai le droit d'être autoritaire ». Et je m'aperçois, pour avoir pratiqué les mouvements révolutionnaires, et regarder, puisque ça fait 50 ans que je regarde la société française et que je scrute les mouvements révolutionnaires, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'il y a eu un moment comme si on était investi par la fonction sacrée de faire advenir le bien, l'humanité à l'intérieur de l'homme, et qu'on se dit inconsciemment, finalement, j'ai tous les droits à cause de ça. Voilà, c'est tragique ce que je dis, parce que, bien évidemment, notre monde dira, et Luc Ferry l'a bien montré, les droits de l'homme, ça nous permet aussi de lutter contre les totalitarismes, de lutter contre l'oppression, contre la torture, contre des choses abominables. Voilà.
Alors que pense l'historien de ce détournement, j'allais dire, qui s'est passé quand même très vite ? La Révolution démarre en 89, mais la République se crée en 92. la vraie République, c'est-à-dire en enlevant la partie monarchique. Et un an après, c'est la Terreur, c'est Robespierre.
C'est... 22 septembre 1792.
Ça, c'est la République.
Et c'est
et moins d'un an après.
L'an 1 de la République.
Ouais. Pierre-Yves.
Oui, oui. Les révolutions, c'est sûr, c'est ce qui interroge entre le XVIIIe siècle et la Révolution. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est de mettre les choses en perspective dans une géographie plus vaste, hein, puisque Claude tout à l'heure parlait de géographie. Alors, c'est pas nouveau. Hein. Il y a un historien américain, Robert Palmer, et puis Jacques Gottschalk, qui l'ont fait dès les années 1950-60. En parlant des révolutions atlantiques, la révolution n'est pas que française. Hein. D'abord, il y a la révolution américaine, hein, bien évidemment, mais il y a la révolution aussi à Genève. Quand Catherine II parle de la Pologne à la fin de son règne, elle l'appelle la Jacobinière. C'est un phénomène global. Hein. Ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Et comme souvent dans les révolutions, hein, il suffit de penser à ce qui s'est passé en Angleterre au siècle précédent, au XVIIe siècle, la révolution dévore ses enfants. Hein. La révolution dévore ses enfants. La dimension de violence est vraiment au cœur du processus révolutionnaire. Et la plupart du temps, ceux qui sont modérés aspirent à arrêter la révolution au moment où ils estiment que l'essentiel est acquis. Donc, pour la Révolution française, c'est 1791. Notre première constitution, c'est 1791. Après tout, notre fête nationale, si elle fait référence à la prise de la Bastille, c'est surtout le 14 juillet 90, la fête de la Fédération que nous fêtons, et il faut le rappeler. Et on a exactement, vous évoquiez l'un et l'autre tout à l'heure, Bonaparte avec la restauration de l'esclavage. Il faut savoir que Bonaparte, il estime, lui, qu'à un moment donné, il faut... Alors, certains l'ont vu comme un fossoyeur de la Révolution, l'autre comme celui qui allait l'exporter à la pointe des baïonnettes. D'abord, on n'a pas attendu Bonaparte pour le faire. Hein. C'est souvent, d'ailleurs, ce qu'on a pu reprocher à certains révolutionnaires. Mais dans le cas de Bonaparte, il dit que la Révolution est terminée et elle est fixée à ses principes. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette volonté aussi d'arrêter à un moment donné le processus avant que s'autodétruise ou donc, comme je disais tout à l'heure, dévore ses propres enfants. La preuve, c'est ceux qui ont décidé à un moment donné, ce qu'on appelle les thermidoriens, hein, de faire tomber Robespierre, n'étaient pas moins révolutionnaires que lui, mais ils estimaient qu'à un moment donné, il y avait un phénomène d'emballement. Donc ça c'est une réalité. Mais quand on reprend l'exemple de Bonaparte, moi j'aime pas la façon dont souvent on présente en disant en fait il a dénaturé la Révolution, etc. Non, il est à la fois un fils de l'Ancien Régime et des Lumières, ça c'est très clair, et en même temps il essaye de faire une synthèse entre, y compris jusqu'à en créant la noblesse impériale, hein, entre l'Ancien Monde et le Nouveau Monde.
Y compris avec son couronnement. Parce que quelque part, il veut rétablir un lien sacré, mais à la différence des précédents sacres, c'est pas le pape qui le sacre, c'est lui qui se sacre lui-même. Mais néanmoins, il y a un retour, et en fait, on s'aperçoit que dans ces mouvements à cette époque-là, et même plus tard, même au XXe siècle, il y a toujours un retour vers le sacré. Même malgré le siècle des Lumières et tout ce qu'on a pu dire, on s'aperçoit que lorsque la nation est en danger, lorsque quelque chose arrive, le peuple a besoin qu'on le rattache au sacré. Et je prendrai le dernier exemple, c'est Staline en 41. Après l'invasion allemande, tout d'un coup fait un appel au sacré et rappelle au peuple soviétique.
Mes chers amis, Robespierre est le culte de l'être suprême.
Exactement.
Le premier acte est important. C'est-à-dire que, bien évidemment, on supprime une religion pour immédiatement en refaire une autre, parce que refaire une autre, c'est la meilleure manière de la supprimer. Et tout. Et donc, moi, je crois, si on prend le problème de Napoléon, je suis d'accord avec notre ami, il y a eu un rêve d'exporter dans le monde entier la lumière révolutionnaire. Et c'est vrai que Napoléon, d'un côté, il y a cet absolutisme qui retourne à un absolutisme que l'on croyait révolu, mais de l'autre côté, il y a un idéal. Et je crois que il faut voir comment il a été reçu en Allemagne comme un libérateur. En disant, attention, on n'a pas vu du tout. En Espagne, je crois qu'on a vu Napoléon comme un oppresseur. Mais en Allemagne, il a été salué comme un libérateur qui permettait l'indépendance des peuples, le progrès. Et Napoléon, à mon avis, se pensait comme un homme des Lumières. Tout en ayant repris toute une géographie, une historiographie sacrée.
Oui, en voulant recréer une dynastie, par exemple, mais c'est vrai qu'il est à l'origine de tout un tas de...
Mais quelque part, on revoit un moment civil, comment on refait pas la royauté, mais on refait l'empire comme un Rome. Et on veut faire un moment régner quelque chose, une forme de grandeur. Grandeur révolutionnaire.
Oui, pour aller dans le sens de ce que disait Stéphane, on dit toujours l'unification allemande, on pense au 19e siècle à Bismarck, etc. Celui qui a fait le travail, c'est Napoléon, puisqu'on passe des 300 États du Saint-Empire romain germanique, plus de 300 États à 15. Hein. Donc il a fait énormément de choses. Et après la chute de l'Empire, on ne revient pas sur toute une série d'acquis, y compris sur l'aspect juridique, évoquer le code civil, etc., qui a ses transcriptions outre-Rhin et ailleurs. Il a vraiment modelé la nouvelle Europe, hein, très clairement.
Je voulais revenir sur un point, parce qu'on a évoqué Hannah Arendt, et Hannah Arendt stipule qu'au stade initial, les révolutions sont, je la cite, « l'œuvre d'hommes fermement convaincus de ne rien faire d'autre que restaurer un ordre ancien qui serait mis à mal ». Vous-même, Bertrand Vergely, vous dites que la Révolution s'est fait dévorer par l'Ancien Régime dont elle ne s'est jamais débarrassée. Donc en fait, ma question c'est, est-ce que de telles situations sont inéluctables, c'est-à-dire qu'aux Lumières succède obligatoirement un régime de terreur? Est-ce que c'est valable, ce côté inéluctable, spécifiquement en France? Ou peut-être que Pierre-Yves Beaurepaire peut nous en renseigner là-dessus. Est-ce que ça a été connu aussi d'autres façons et d'autres manières dans d'autres pays que le nôtre?
Alors, pour moi, le véritable problème, c'est qu'à un moment, on s'attaque à la question de l'origine. Et la question de l'origine, c'est très simple, c'est un climat psychologique. C'est ce que Nietzsche explique très bien dans la généalogie de la morale. De quoi est-on né? On est dans quel état psychologique? Alors, on essaye de faire l'état des mentalités et quelque part l'esprit qui va permettre à un moment de restaurer la créativité et le souffle génial de l'humanité. Et donc, c'est l'aspect merveilleux des révolutions, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez des régimes décadents, comme la noblesse, comme dans un certain nombre de politiques. Et vous avez un souffle révolutionnaire qui dit « on veut retrouver l'esprit des origines, on veut retrouver la dynamique, l'énergie, mais il faut se donner les moyens de restaurer l'origine ». Et le problème de restaurer l'origine, c'est pas de revenir à la tradition, à l'ancien qui s'est déjà fait, ou de revenir à quelque chose d'archaïque, mais c'est vraiment de revenir à quelque chose d'original. Alors, pour une part, mais ça a été réussi, étant donné que notre ami parlait tout d'un coup de la créativité des Lumières, parce qu'il ne faut pas nier ça. Il y a un souffle intellectuel extraordinaire, il y a une passion pour les sciences, il y a un engouement politique, il y a un sens de la question sociale. Et on ne peut pas dire que les Lumières aient été ratées. Les Lumières ont été merveilleusement réussies. Il s'est passé quantité de choses et des choses absolument remarquables. Et en même temps, il y a eu quelque part une zone obscure des Lumières. Et donc la zone obscure des Lumières, c'est vient du fait, à mon avis, de gens qui ont voulu trop vite résoudre la question de l'origine. Je prends un exemple. Vous avez le Cambodge, où on dit on va résoudre le problème de la société, c'est éliminer le capitalisme et on va éliminer les bourgeois et les intellectuels. Alors qu'est-ce qu'il fait? On fait un génocide. Staline avait fait la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce que dénonçait Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, c'est de dire faites attention, ne dites jamais du passé faisons table rase. Et ne commencez jamais à dire que la condition de la société nouvelle, c'est d'éliminer l'aristocratie, d'éliminer les bourgeois, d'éliminer les capitalistes, d'éliminer les intellectuels. Et donc, il faut trouver, c'est pas facile, hein, c'est pas facile de dire comment va-t-on fabriquer un monde nouveau avec, à un moment, des bourgeois, des capitalistes et forcément des gens qui sont contre vous et qui ne rêvent que d'une chose, c'est de vous abattre. Là, un certain nombre, les révolutionnaires ont dit, si on les tue pas, si on fait pas une extermination, on va jamais s'en tirer. Et je crois que là, ça a été l'énorme problème, voyez. Et Hannah Arendt, elle réfléchit sur quoi? Elle dit, attendez, faites attention, l'homme, ça vient pas de vous. L'histoire ne commence pas avec vous. Faites attention à la folie. Ne faites pas l'an 01 de l'humanité. Ne dites pas du passé, faisons table rase. Ne faites pas ces folies. Voilà. Et je crois que j'ai pas la solution. On est au pouvoir politique, on a affaire à des gens qui sont contre vous. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Mais je pense que malheureusement, mettre en place un système de terreur totalitaire stalinien ou bien encore Robespierrien avant, c'est pas la solution.
Mais on voit que l'histoire, par la suite, et je me tourne vers Pierre-Yves, a eu de nombreux soubresauts. Les idées révolutionnaires ont, je dirais, trouvé leur finitude, peut-être avec la Troisième République seulement, hein, et qu'on a vécu pendant un siècle des mouvements de balancier assez rapides, d'aller-retour entre différents types de gouvernements en France. Là, je parle de la France. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, cette stabilité qu'on a politique est quand même l'héritage de tous ces mouvements et de ces lumières, peut-être, qui finalement ont trouvé leur... finitude, 150 ans après, quoi.
Elle vient du fait aussi, c'est très important, c'est que l'Église catholique a accepté de ne pas être contre la République. Et ça, c'est très important.
Ouais. Vous avez raison sur ce point. Pierre-Yves, un commentaire sur...
Oui, alors juste pour la dernière intervention, c'est une acceptation tardive hein, qui se fait... du bout des lèvres, et sinon on n'aurait pas, parce qu'aujourd'hui quand on parle y compris de réécriture de la loi de 1905, on oublie que pour l'époque c'est pas une loi de combat, contrairement à la caricature qu'on en a faite dans certains milieux, c'est une loi de compromis, et que l'époque, le paroxysme de l'hostilité entre ce qu'on appelle les deux Frances, c'est les années 1870-1880, tu évoquais la Troisième République, c'est sous la Troisième République qu'on va commencer hein, eh bien, à trouver un certain nombre d'accommodements de part et d'autre. Donc effectivement, c'est exactement ce que tu as dit Stéphane, il a fallu un siècle, très très clairement, et ça c'est quelque chose de tout à fait caractéristique. Et puis bon, tu as évoqué la France, mais si on regarde nos voisins et néanmoins amis britanniques de l'autre côté de la Manche, qui ont connu leur révolution au XVIIe siècle, qui ont aussi décapité leur roi hein, en la glorieuse révolution, celle de 88-89, on a déposé un roi et on a changé de dynastie après, on a aussi une recherche par des lumières qu'on va appeler modérées, hein, et bien de comment faire évoluer une société, des institutions, sans rupture sanglante. Donc on a tout un ensemble en fait d'expériences qui ont lieu. Et effectivement, nous on est comme souvent dans notre histoire davantage sur l'affrontement, hein, et cet affrontement en fait il y a une sorte de comme la queue de la comète, hein, il y a une sorte de traîne comme ça jusqu'à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui on voit bien, y compris dans le contexte social et politique, de ceux qui instrumentalisent en permanence l'appel à la révolution, à nouveau décapiter symboliquement le roi que serait le président de la République, ceux qui verraient aussi dans la visite du reportée du roi d'Angleterre à Versailles une sorte de façon de revisiter hein, la fin du XVIIIe siècle, y compris avec... donc toutes sortes de clichés qui n'existent pas, hein, qui sont des reconstitutions a posteriori. On voit bien que ça reste encore, on reste encore un pays où la tradition de l'affrontement, qu'on voit notamment autour de la révolte contre l'autorité au XVIIe siècle, des révolutions du XVIIIe, est quelque chose d'encore très très présent, alors qu'ailleurs on choisirait plutôt la voie du compromis, de la discussion, etc. Comme chez nous, on estime, comme souvent à déjà l'époque révolutionnaire, qu'un compromis, c'est faire preuve de faiblesse, bien évidemment, ça incite personne à aller dans le sens du compromis. Et on a un vrai
très juste
de ce point de vue-là.
Comme disait John Wayne, il ne faut jamais s'excuser, c'est une marque de faiblesse.
Nous sommes d'irréductibles Gaulois. Et nous sommes, comme disait notre président, les Gaulois réfractaires. Mais mon cousin me disait, mais qu'est-ce qui se passe en France? Vous êtes tout le temps en colère. Je lui répondis, ne t'en fais pas, les Français adorent.
Et pour ma part, j'ai un petit peu de mal à resituer John Wayne dans les siècles des Lumières.
Non, c'est de récupération tardive, effectivement. Voilà. N'y aurait-il pas un mouvement cyclique dans l'histoire de l'humanité qui ne ferait plus des Lumières un mouvement unique, mais plutôt une sorte de mouvement de balancier, mais là sur un temps beaucoup plus long, qui reviendrait régulièrement remettre en cause un ordre établi? N'y a-t-il pas eu des Lumières dans l'Antiquité? C'est une question peut-être pour Bertrand d'abord ou...
Alors, je ne sais pas quoi dire. Je voudrais juste rajouter quelque chose. La spécificité des Lumières et qui a intéressé Hannah Arendt, mais elle n'est pas allée au bout. Le problème des Lumières, c'était le problème de savoir et si tout commençait avec l'homme et non pas simplement avec Dieu. Et là, il y a une réécriture complète de la Genèse. Et si vous relisez Hobbes et Rousseau, vous apercevez qu'il réécrit la Genèse. Vous lisez l'histoire, l'origine des inégalités, c'est très simple. C'est une réécriture de la Genèse à partir du bon sauvage et de l'apparition de la propriété. Et l'idée qu'on va être sauvé, comme disait Hobbes, par le contrat. Donc il faut bien que vous compreniez, au commencement était le bon sauvage, ensuite apparaît le monde de la propriété ou bien de l'égoïsme individuel, et puis on va s'en tirer, Rousseau, le contrat social, et chez Hobbes, le contrat de sécurité. Donc ça, c'est très important, et je pense que c'est complètement nouveau. Je pense qu'il n'y a pas de mouvement de balancier. Ce qui s'est passé dans les Lumières et la Révolution française, c'est une transgression, c'est-à-dire qu'on fait sauter les limites. Alors, il y avait eu un désir chez les sophistes à Athènes de bâtir avec la démocratie un monde dans lequel tout serait fondé sur la formule de Protagoras, à savoir l'homme est la mesure de toute chose. Mais, quelque part, alors là, c'est vraiment la Révolution française et notre monde qui est allé au bout. Et c'est le problème de l'origine. L'origine, c'est nous. L'origine, c'est Sartre, c'est celui qui dit l'important, c'est pas ce qu'il y a eu avant, c'est moi qui agis à partir de ce que je fais, et le reste, je veux pas en entendre parler. On est toujours là-dedans, et donc là, c'est complètement inédit.
Donc il y a une vraie originalité.
Ah oui, à mon avis.
Pierre-Yves ?
Tu évoquais tout à l'heure la franc-maçonnerie, hein, qui connaît un développement absolument remarquable au siècle des Lumières. C'est vraiment la forme de sociabilité nouvelle au XVIIIe siècle. Dès les constitutions qu'on va fêter cette année, les constitutions dites d'Anderson de 1723, et surtout dans l'édition suivante de 1738, on dit « Adam était franc-maçon ». Le premier homme était franc-maçon. Il y a une volonté de retour aux origines, et on va faire qu'il faut se placer dans la perspective de l'époque, du temps. Ils ont une vision généalogique, non seulement celle pour les dynasties, etc., mais on va refaire toute une vision généalogique et une reconstruction mentale généalogique des grands architectes, des souverains qui les ont soutenus, etc. C'est ça la vision aussi du monde au XVIIIe siècle. Et tout à l'heure, on évoquait ensemble la question du progrès, les enjeux sociaux, etc. Il faut imaginer que l'espérance de vie moyenne d'un Français en 1789, elle est de 28 ans et demi. Quand on passe le cap des 10 premières années de la vie, on vit en moyenne 40 à 45 ans. Alors ça ne veut pas dire que certains ne vivent pas comme le premier ministre de Louis XV, Fleury, jusqu'à 90 ans, etc. Mais c'est 40 à 45 ans, dans le meilleur des cas. Et que ce soit Louis XVI ou les principaux révolutionnaires, ils ont 19, 20 ans au début de la Révolution. Donc il faut prendre aussi cette dimension générationnelle et en même temps cette vision généalogique de l'histoire, des sociétés, et puis des transmissions qui se font à ce moment-là. Et là aussi, on voit certaines des tensions qui se trouvent liées aux dynamiques des Lumières et de la Révolution. Retour aux origines, d'une part, c'est assez certain, comme pour l'humanisme et la Renaissance dont tu parlais tout à l'heure. Hein, après tout, le mot d'ordre de Luther, c'est ad fontes, hein, aux sources. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour eux. Et en même temps, on a des dynamiques propres à cette période-là parce que on se dit, comme dans la Constitution américaine et dans la Déclaration d'indépendance qui est aussi transatlantique, hein, tellement elle a été influencée par les lumières d'une rive à l'autre, hein, quest for happiness, hein, la quête du bonheur. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est caractéristique de cette époque-là.
C'est vrai qu'il y a quelque chose de frappant. Tu as parlé de la jeunesse de tous ces hommes qui ont fait la Révolution. C'est vrai que Bonaparte est consul à 30 ans. Danton, Robespierre meurent tous à 35 ans. Est-ce qu'on pourrait dire que ça a un impact particulier ou est-ce que c'est finalement la photo d'une société où effectivement ceux qui étaient au pouvoir étaient jeunes ? Mais je pense qu'au contraire, dans l'Ancien Régime, il n'y avait pas cette notion de jeunesse à l'image de ce qu'a produit la Révolution. Saint-Just, Fouquier-Tinville, toutes ces personnalités étaient très jeunes.
Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, mourir jeune, c'était formidable. C'était, c'est pas comme nous, hein. Ils cherchaient pas à rester longtemps. Ils cherchaient à mourir glorieusement. Et quelque part, si je peux mourir glorieusement et tout, je reste dans les mémoires, c'est-à-dire que j'ai une autre longévité.
C'est la source du romantisme, ça.
Ah oui. Vivre vite, mourir jeune.
Bon, Claude, tu voulais intervenir.
Oui, je voulais revenir aussi, parce que décidément, Hannah Arendt nous fait beaucoup parler, notamment dans une de ses interventions avec René Char, elle parlait de l'héritage, de l'importance de l'héritage et de la transmission entre générations. Et les générations, ça va vite, y compris sur le siècle des Lumières. Et dans notre organisation, on attache beaucoup d'importance à l'hubris. Et on considère que nous avons deux ennemis importants, c'est l'ignorance et l'idolâtrie. Alors le constat qu'on pourrait faire, puisqu'il y a eu effectivement ces coupures, cette transgression, est-ce que certains, à un moment donné, n'ont pas trop idolâtré leurs idées et que d'autres ne les ont pas récupérées avec trop d'ignorance?
Oui, je pense que le problème, c'est le problème des passions politiques et le fait qu'à un moment, dans les passions politiques, on a affaire à deux types de passions. J'idolâtre d'un côté et je récupère rapidement de l'autre côté. Et je pense que effectivement, le temps est venu de prendre la mesure des choses et de pouvoir à un moment... Mais je pense que c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire on est en train de digérer les Lumières, on est en train de voir ce que l'on peut garder. Ce qui est tout à fait nouveau, si vous voulez, c'est qu'il y ait des écrivains non réactionnaires comme Hannah Arendt, qui tout d'un coup, dans son analyse sur l'impérialisme et sur l'antisémitisme, dit « faites attention, il y a des choses qu'on croyait formidables dans les Lumières et qui nous mènent directement au totalitarisme du XXe siècle ». Et en particulier, il y a cette idée de la fabrication de l'homme nouveau. L'homme, nous, on va le faire. Parce que le problème n'est pas simplement de partir de l'homme, le problème, c'est la dérive technique qu'il y a à propos de l'homme, et qui est de dire l'homme, non seulement on part de lui, mais c'est nous qui allons le fabriquer. Et là, on est dans le transhumain, où l'homme, au-delà de l'homme, fabrique l'homme. Et ça, c'est le problème actuel du transhumanisme, qui est un héritier de tout ce mouvement, et dans lequel on dit l'homme, on va le fabriquer. Et on voit qu'est-ce que c'est que le totalitarisme. C'est le fait de dire, si nous conditionnons l'homme à la fois génétiquement, socialement, idéologiquement, on va fabriquer l'homme parfait et on sera enfin dans l'humanité heureuse.
Alors ça, ce sont des lumières inquiétantes. Pierre-Yves, on arrive à la fin de notre émission. Alors, qu'est-ce qui reste de toute cette époque, toi qui l'as étudié avec passion et beaucoup de précision? Qu'est-ce qui reste des lumières aujourd'hui?
Ah, ça, c'est une vaste question. Mais juste avant d'y répondre, si tu me permets un petit aparté pour faire écho à ce
bien sûr
à la question de Claude à l'instant, je pense que la question fondamentale, hein, celle de l'hubris, de la démesure, il faisait le lien entre justement la question de l'hubris et puis celle de du cheminement du maçon. Au XVIIIe siècle déjà, la question des métaux est centrale, hein, dans la démarche du maçon. Il y a un très beau tableau qui a été fait à Reims, qui représente justement trois maçons appartenant aux trois ordres de la société, le représentant du clergé, de la noblesse et du tiers-état, devant le temple de la loge bien nommée de Reims qui s'appelle la Triple Union, et qui se serrent la main. Et ils sont à la fois unis par leur lien maçonnique. Ils vont tous les trois se retrouver à la réunion des états généraux. Et en même temps, chacun accepte la différence de l'autre puisqu'ils ont le costume qui sera le leur pour l'ouverture des états généraux. Ce qui nous reste de la Révolution s'inscrit vraiment à des lumières à des niveaux très différents. Ça peut être l'organisation de la société, ça peut être toute la question des corps intermédiaires. C'est plus d'actualité que jamais aujourd'hui parce qu'on a commencé nos entretiens sur la liberté au singulier. À l'époque, ils la comprennent comme les libertés au pluriel, qui sont celles des corps et des communautés, ce que nous on appellerait des corporations, qui ne sont pas des corporatismes. C'est-à-dire que chacun a le droit de s'intégrer à des groupes qui sont représentants de ses intérêts et qui peuvent dialoguer avec les autorités. Et bien ça, c'est un certain nombre des héritages, il y en a beaucoup d'autres, l'enjeu éducatif, etc., mais qui sont ceux des Lumières, et je pense que c'est très important.
Merci. Alors, juste pour conclure, si on devait schématiser de façon très rapide, les Lumières sont nées d'une révolution technologique On l'a situé tout à l'heure avec notamment l'imprimerie, l'accès à la connaissance par le plus grand nombre.
Le mécanisme, la biologie, les modèles épistémologiques qui changent complètement.
Aujourd'hui, on vit la même chose. On vit une révolution cognitive colossale.
Colossale.
Il y a eu Internet d'abord, il y a 20 ans.
L'information.
Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça va produire? Est-ce que vous êtes inquiet? On pourrait conclure là-dessus. Bertrand, peut-être d'abord.
Écoutez, moi, si je dois retenir les Lumières, ce que je retiens, c'est quand même malgré tout la passion pour l'esprit et un amour de l'esprit envers et contre tout. J'aurais adoré passer un dîner avec Voltaire. J'aurais aimé dîner avec Voltaire. J'aurais été enchanté parce que Voltaire, c'est pas tout à fait midi, mais quand on lit le dictionnaire philosophique, mais quel chef-d'œuvre! Quelle virtuosité et quelle intelligence, quelle subtilité même dans l'analyse des textes. Il connaît à fond la Bible, il voit les contradictions et je trouve ça absolument admirable. Donc ce que je retiens, mais une passion pour les idées et l'esprit. Et puis aujourd'hui, ce qui se passe n'est plus dans l'ordre des Lumières. C'est une caricature. Je pense que le transhumanisme derrière, c'est un nouveau pouvoir industriel énorme qui a décidé de fabriquer un nouvel homme. C'est à l'image, si vous voulez, du métavers où on dit on va vous fabriquer un univers parallèle et vous allez voir, on va remplacer la réalité. Taisez-vous, vous êtes complètement fous et là vous reprenez les folies, on va fabriquer un nouvel homme, on va fabriquer une nouvelle réalité et vous êtes complètement fous. Je pense, et je suis assez heureux, c'est en train de se casser la figure et j'espère que ça va pas arrêter.
Le métavers, oui, mais l'intelligence artificielle, c'est un autre sujet.
Non, l'intelligence artificielle, c'est doux parce qu'il y a des tas de voies, il y a des tas d'aspects de la vie où ça va être formidable et ça va nous aider à améliorer certaines choses. Je pense en médecine. Je pense qu'actuellement, pour beaucoup de choses, ça donne énormément d'utilité. Et dans un monde de masse, il en faut un minimum. Donc je pense que c'est assez adapté, mais pas pour tout.
Pierre-Yves, le mot de la fin, avant mes dernières petites questions.
Oui, moi ce que je retiens, c'est la curiosité universelle. C'est-à-dire qu'ils se passionnent de tout. C'est un univers en expansion parce que c'est la découverte du Pacifique qui est quand même la plus grande partie du monde. Sans vouloir refaire les mêmes erreurs qu'avec la colonisation de l'Amérique, c'est cette curiosité universelle sans limite, cette volonté jusqu'au bout de découvrir, d'apprendre et de connaître. Et ça, c'est absolument génial.
La passion de l'esprit.
Ouais. La passion de l'esprit. Vous avez la même,
la
même analyse, finalement, l'historien et le philosophe.
Ah oui, l'énergie.
On vous réconcilie là-dessus,
c'est
top.
Un amour de la pensée, envers et contre tout. Ouais.
Alors, nous avons l'habitude, à la fin de chaque émission, de demander à nos invités de répondre au fameux questionnaire de Proust. Révolution oblige, je vais vous proposer un autre exercice, qui est celui de l'analogie. Je vais vous demander de vous identifier à des personnages et des époques en quelques questions. Bertrand Vergely, si vous deviez vous reconnaître dans une personnalité des Lumières, laquelle choisiriez-vous ?
Écoutez, moi j'aime beaucoup Diderot à cause de sa passion. Quel incroyable homme, ouvert à toutes les sciences, à la passion, à la découverte. Il pétait d'énergie et il m'est extrêmement sympathique.
Et vous, Pierre-Yves Beaurepaire ?
Moi, j'aurais aimé être un naturaliste du 18e siècle, un botaniste sur les traces de Linné qui voyagerait à travers le monde pour connaître le vivant. C'est absolument... De Linné à Humboldt, on a les plus grands savants et naturalistes.
Et faire des aquarelles sur le pont d'un bateau après avoir ramassé des plantes et voilà.
Exactement.
Et les nommer,
voilà, tout à fait.
Bertrand Vergely, je vous pose à nouveau la question, mais cette fois-ci avec un personnage directement lié à la Révolution française. Lequel choisiriez-vous ?
Mais écoutez, j'ai beaucoup de mal parce que c'est des personnages politiques et souvent c'est extrêmement violent. Je ne sais pas lequel. J'ai l'impression que les plus grands personnages de la Révolution française viennent après la Révolution française et ce sont ceux qui nous permettent de comprendre la Révolution française. Au fond, à qui j'aurais aimé affaire ? À un instituteur du 19e siècle et à ce qu'on a appelé les hussards de la République. C'est des gens qui apportaient la culture au peuple et qui étaient pétris par l'idéal des Lumières, sans voir le côté négatif, mais qui avait le sens de l'éducation des enfants, de, vous voyez, tout cet extraordinaire travail qui s'est fait pour l'éducation. Et vraiment, il y a eu des grands... Alors, je crois que c'était au-delà de la révolution. Mais ça, c'est formidable. Et tous ceux qui ont voulu, à un moment, développer la science, développer la médecine, je pense qu'il y a eu quand même des choses extraordinaires, des gens comme Claude Bernard, la méthode, la médecine expérimentale, c'est très important. Peut-être qu'un des plus importants, c'est Semmelweis, qui s'est lavé les mains et qui, à un moment, évitait les fièvres puerpérales pour les femmes. Absolument. Voilà. Pour moi, ça, c'est les grands révolutionnaires, des médecins, des éducateurs, des gens formidables, plein d'amour et au service de la France et de la République.
Et vous, Pierre-Yves Beaurepaire, vous avez choisi quelqu'un dans la Révolution ?
Ça nous amène loin, hein, les médecins, 19e, 20e siècle, etc. Comme j'ai déjà parlé d'Humboldt tout à l'heure, et la synthèse entre les deux, moi j'aimerais Condorcet, parce qu'il fait la synthèse entre l'Ancien Régime et la Révolution, il y a tout le projet et éducatif, ou alors pour le début de la Révolution, puisque il meurt en 1790, il n'est pas français, Benjamin Franklin, qui est quelqu'un que je trouve absolument génial à tout point de vue.
Merci. Alors, une dernière question. Vous êtes des hommes de réflexion, d'analyse, vous savez utiliser l'histoire pour illustrer vos propos. Alors, question, à quelle époque auriez-vous aimé vivre? Si c'est pas celle dans laquelle on est, bien sûr,
bon,
aujourd'hui.
Alors moi, il y a deux époques. J'adore mon époque. Et par définition, je voudrais en définir aucune autre. Mais quand même, chaque année, je vais à Delphes et j'aurais aimé, à un moment, pouvoir voir ce qui se passait à Delphes et vivre avec les présocratiques, avec Parménide, avec Héraclite, avec les grands penseurs de la Grèce, qui sont pour moi des hommes éminemment spirituels. Donc voilà, j'aurais adoré, ça m'aurait... Bon, je pense qu'Héraclite ne devait pas être commode, mais j'aurais adoré le rencontrer.
Et vous, Pierre-Yves Beaurepaire ?
Ah, moi, je pense que j'ai aussi un faible pour l'Antiquité. J'aurais voulu vivre à l'époque d'Alcibiade et assister au mystère d'Eleusis sans pour autant les
alors, c'est bien, on se serait retrouvés. Entre Eleusis et Delphes, on aurait fait connaissance et on aurait lié amitié.
Voilà, exactement.
Bon, écoutez, Bertrand Vergely, Pierre-Yves Beaurepaire, un grand merci pour votre participation à Témoignage écossais. Et surtout pour votre dialogue inspirant qui nous a permis de mieux connaître et comprendre ce qu'on a souvent trop tendance parfois à simplifier.
Merci, beaucoup. Vous avez été remarquable.
Ça, c'est gentil, ça. Mais on va le couper au montage, ça.
Ben, merci à tous. Merci Stéphane et à Claude pour vos questions aussi bienveillantes qu'inspirantes.
C'était merveilleux. On a passé un très, très joli moment.
C'était Témoignage écossais, saison 4, épisode 2. Merci à tous ceux qui contribuent à cette émission sur les ondes et dans l'ombre, notamment Claude Guichard, Stéphane Demazur, Guillaume Mignard et, comment l'oublier, Julien Riquier, notre lumière sonore éclairante qui contribue à la qualité auditive de notre œuvre collective et nous fait ainsi passer de l'oxymore au pléonasme. À bientôt pour un nouveau rendez-vous de Témoignage écossais.